السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شيخ خير شيخ سوران الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. D'abord, nous vous adressons nos sincères remerciements pour cette invitation. Remerciements aux responsables de la Masjid du Tampon pour l'honneur qu'ils nous font depuis 3 ans, 4 ans, alhamdulillah, de nous donner la possibilité de faire un mujahada, de faire un petit effort pour le dîn d'Allah Azza wa Jal. Allah seul sait le nombre de péchés que nous cumulons durant une année. Allah seul sait les manquements qu'il y a dans notre vie. Allah seul sait comment est-ce qu'on a besoin de sa clémence, de sa rahma. Et le mois de Ramadan, ikhwani, akhawati fillah, c'est le moment par excellence où le musulman doit essayer d'obtenir le contentement d'Allah Azza wa Jal. Rahim, si Allah n'était pas karim, si Allah n'était pas si généreux avec nous, sans le moindre doute, personne de cette assemblée ne pourrait espérer entrer au Jannah. La wallah, parce que notre iman est tellement faible, nous sommes tellement loin d'Abu Bakr al-Siddiq, nous sommes tellement loin de Umar ibn al-Khattab, de Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib, de Moussa ibn Umair, de Abdullah ibn Mas'ud, d'Abu Huraira, radiallahu anhu, et des sahaba, ces personnes qui ont obtenu l'attestation de notre prophète alayhi salatu wassalam et l'agrément d'Allah azza wa jalla radiallahu anhum wa radu anhu. Ces personnes, c'était vraiment mathal, c'était vraiment les exemples dans leur vie, dans leur iman, dans leur a'mal. Et lorsque, imaginez qu'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il aborde ce mois de Ramadan, quel est son état d'esprit? Quel est le niveau du saoum? Quel est le niveau du rosa, du karem de Umar ibn al-Khattab, de Uthman, de Ali, de Abdurrahman bin Auf? Et si on analyse avec notre rythme de vie à nous, les actions que nous faisons, les nuits que nous passons, même si nous essayons de passer un peu de temps dans l'ibada, on se rend compte que il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison. Et que si Allah Azza wa Jal devait nous juger uniquement par rapport à des chiffres, par rapport à une masse, par rapport à une quantité d'actions bonnes, et par rapport à une quantité de péchés qui se trouvent ou non dans notre mizan, il n'y a pas une personne de ce majlis qui pourrait espérer entrer dans le Jannah. Abadan wallah. Mais c'est vraiment qu'Allah Rabbul Izzah et Rahman Rahim, qu'Allah Azza wa Jal aime cette Ummah, qu'Allah Azza wa Jal a beaucoup d'affection. Allah est wadoud et Allah a cette clémence qui est propre à notre Seigneur, qui est propre à notre Rabb. Et durant ce mois béni de Ramadan, Allah Azza wa Jal nous couvre de sa bénédiction. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait parlé aux sahaba, une fois, il avait dit « قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ » شَهْرٌ مُبَارَكٌ, c'est un mois béni. Les ulama disent que depuis رُؤْيَةُ الْهِلَالِ jusqu'à رُؤْيَةُ الْهِلَالِ, depuis la vision de la lune à la fin de Sha'ban jusqu'à la vision de la lune à la fin de Ramadan, la rahmat d'Allah, la baraka d'Allah, elle va couvrir cette umma et elle va couvrir les gens qui méritent, mais également, et alhamdulillah, elle va couvrir également les gens qui ne le méritent pas, c'est-à-dire nous tous, même les gens qui n'ont pas de sifa des sahaba, même les gens qui durant toute l'année n'ont pas développé ces qualités, ce ta'alluq avec Allah Azza wa Jal. Si durant toute l'année, les 11 mois de l'année, nous n'avons pas vraiment manifesté d'amour pour Allah, nous ne sommes pas prêts pour faire le moins de mujahada, le moins de fort pour Allah Azza wa Jal, et qu'à chaque fois qu'on avait le choix entre Hubbul Dunya et Hubbul Akhira, entre l'amour pour les biens de ce monde et l'amour pour Allah, lorsqu'on avait le choix entre obéir à Allah et suivre notre nafs, et que très souvent, malheureusement, on a suivi notre nafs, mais malgré ça, malgré ces manquements, le seul qui peut avoir une pitié pour nous, ce sera jamais un makhlouk, c'est vraiment le Khaliq. Et donc, les ulama disent que ce Shahrun Mubarak, ce mois qui est béni, mais c'est une grande fête, c'est une grande victoire, c'est une preuve de clémence de notre Seigneur, que c'est pas uniquement les muttaqin qui vont bénéficier des bienfaits du Ramadan, et heureusement, c'est l'ensemble de ceux qui ont la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur, et l'ensemble des personnes qui vont jeûner durant ce mois, c'est-à-dire tous les ahlul iman, Comprenez qu'il n'y a pas un musulman de cette Ummah qui volontairement se dit que le mois de Ramadan arrive, mais ça ne m'intéresse pas, je ne jeûne pas. Allah Rabbul Izza a mis l'attachement pour le mois béni de notre cœur, parfois plus. Il y a les gens ont plus d'attachement pour le mois de Ramadan que pour les 5 salats. Et ça c'est un constat. C'est un constat malheureux, c'est pas l'objectif, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui sont prêts à délaisser le salat en dehors du mois béni, mais lorsqu'il s'agit du mois de Ramadan, il s'agit de jeûner, alors que le jeûne est une action difficile, contraignante. Et nous savons tous c'est quoi jeûner, mais personne, on trouvera aucun tahallouf. Il n'y a pas une personne qui se dirait que ce mois, ce Ramadan, cette action-là, ça c'est pour les anciens, c'est pour les religieux, c'est pour les intégrés, c'est pas pour maintenant, tout le monde jeûne. Et du coup, dans une masjid, on va retrouver parfois des gens qu'on n'avait pas vus depuis Eid ou Eid al-Adha, depuis le dernier Eid al-Fitr, Eid ou Bakrid, des gens qui ne viennent peut-être jamais à la salah, wallahu alam, en tout cas à Saint-Denis c'est comme ça, dans beaucoup de grandes villes, il y a des personnes qu'on voit une seule fois par an, c'est durant ce mois béni. Mais on n'a même pas le droit de porter un jugement sur ces gens. Il y a des personnes qui disent t'es là, fait un an, pourquoi vu? Ah ben il a vieilli, bien il est comme ci, comme ça. Mais bon, ben Ramadan, les personnes sortent, ils reviennent à la masjid. Mais on est qui nous pour porter un jugement? Qui nous dit qu'on n'est pas pire que ces personnes? Qui nous dit que malgré nos amal, nos actions, notre fréquentation de la masjid au quotidien, intérieurement, il n'y a pas un niveau de nifaq, il n'y a pas une telle hypocrisie de notre cœur, il n'y a pas un tel dénigrement à l'encontre de nos frères et sœurs en islam, il n'y a pas autant de souvent de mauvaises pensées qu'on développe au quotidien à l'encontre de nos proches. Qu'est-ce qui nous dit qu'Allah est content de nous? Qu'est-ce qui nous fait croire qu'on est bien? Qu'est-ce qui nous donne cette illusion que parce que je suis à la masjid tous les jours, parce que j'ai la barre, parce que j'appartiens à telle famille, parce que j'ai tel titre, j'ai peut-être tel diplôme, parce que peut-être je suis hafiz al-Qur'an, de moi je fais partie des muttaqin, automatiquement je me classe parmi les gens bien. Au nom de quoi? Qui me l'a dit? Et qui me dit que mon frère, qui peut-être effectivement je ne le vois pas, mais qui te dit que dans sa vie il ne connaît pas des épreuves qui font que ses péchés sont pardonnés au quotidien, qui font qu'il a des qualités qui sont peut-être cachées, qu'Allah Rabbul Izzah l'aime plus même que nous. Donc on aborde ce mois de Ramadan avec beaucoup de tawadhu', beaucoup d'humilité, beaucoup de ikhlas, beaucoup de sincérité et beaucoup de shukr, beaucoup de remerciements. Être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de jeûner, qui nous donne la possibilité de répondre présent avec la Ummah et donc de tendre les mains comme l'ensemble des gens de la Ummah pour essayer d'obtenir un peu de la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr chacun va obtenir cette rahma en fonction de sa sincérité, en fonction de ses amal, de ses efforts qu'il va faire dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans l'éloignement des harams. Et Rouen et Finla, en quittant le centre-ville, il y avait la fête de la musique aujourd'hui. Donc on était un peu surpris, toutes les artères de Saint-Denis étaient bouchées, on ne pouvait même plus sortir du centre-ville. Après, alhamdoulilah, Allah a facilité. Et dans des moments comme ça, on voit des gens aller en masse, afouaj, en groupe. Ils vont aller vers le barachois, ils vont aller vers, je ne sais pas, la mairie, je ne sais pas où. Chacun a sa vie, hein, c'est leur liberté à eux. Mais ils vont pour un événement musical, ils vont écouter tel groupe, tel chanteur, ainsi de suite. Dans ces moments-là, sans dénigrer quiconque, mais dans ces moments-là, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans le cœur. On a une telle reconnaissance qu'Allah Azza wa Jalla nous ait donné iman. Qu'Allah Azza wa Jalla nous ait donné l'islam, que dans mon cœur, il y a la ilaha illallah, mon cœur bat pour Allah. Que je vis pour Allah, que mon temps il est pour Allah, que vraiment l'orientation, les objectifs qu'on se fixe de mois en mois, d'année en année, ben il y a toujours une part pour notre robe, si ce n'est pas entièrement pour Allah, comme ça devrait être le cas, mais au moins on a toujours la pensée d'Allah dans notre cœur, dans tout ce qu'on fait, on pense à ce qu'Allah est satisfait de nous ou pas satisfait de nous, c'est-à-dire il y a la présence d'Allah dans notre cœur, et nous faisons partie de Millata Ibrahim, de Mouahidin, de la Ummah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes dans la ligne des Anbiya alayhi salatu wa salam, bref, nous sommes dans le Sirat al-Mustaqim. Et ça, c'est le plus grand ni'ma qu'Allah Rabbul Izza peut accorder à une personne, la guide et la hidayah. Soit de naissance, je suis né musulman, ou alors dans mon parcours, durant mon sa'i, durant mes années de ma jeunesse, ou quel que soit l'âge, à un moment donné, Allah Rabbul Izza m'a enlevé min al-zulumati ila an-nur, de l'obscurité pour m'amener vers la lumière, et je retrouve la lumière du din, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et je fais partie de la Ummah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Ummatul Istijaba, ceux qui ont accepté le message du din. Quand on voit de l'autre côté ceux qui n'ont pas iman, on se dit que comment une personne peut vivre une vie en entier sans faire un sijda devant Allah Azza wa Jal? Que vaut cette vie? que vous, une fille ou une personne, ne va pas faire preuve de sorte de patience une seule minute pour Allah Azza wa Jal. Alors que nous, depuis le début de Ramadan, ça fait 3 jours ou 4 jours, chaque fois qu'on a faim, on a soif, on a mal à la tête, on dort pas suffisamment, on se dit, pour qui on fait ça? Ça c'est pour Allah ça. C'est pas que je jeûne parce que Moulissa m'a appris à jeûner à l'école, à la madrasa. Je jeûne parce que papa, dada, nana, jeûne. Non, on est tous conscients pourquoi on jeûne. On le fait pour Allah. Et c'est pour ça que le jeûne, c'est une des actions les plus aimées par Allah. L'ensemble des actions, c'est pas le but d'intervention, mais c'est une petite introduction concernant la valeur spirituelle du jeûne. Vous savez que pour l'ensemble des actes d'adoration, il y a une récompense qui a été citée plus ou moins énoncée dans les hadiths. Illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. À l'exception du jeûne, parce que le jeûne, Allah Rabbul Izzah dit, ça m'appartient et c'est moi qui en rétribue. Hey, c'est moi qui en rétribue personnellement le jour de Qiyamah. Il n'y a pas d'indice dans les kutub de tafsir, dans les kutub de hadith, il n'y a pas d'indice qui nous montre que le jeûneur aura tel grade, telle récompense. On a quelques informations. On sait que dans le Jannah, il y a une porte spécifique qui s'appelle, comment ça s'appelle, Ar-Rayyan, réservée aux jeûneurs. Déjà, je me dis, waouh, une porte que pour les sa'imin, ça veut dire que c'est accessible, oui ou non? Je jeûne, est-ce que je ne suis pas un sa'im au moment où je parle? Oui, donc j'ai une chance d'y accéder. Quand on voit les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, le jour de Qiyama, je vois le jeûne qui a passé sa jeunesse de l'adoration d'Allah. Et je me rends compte que j'ai 45 ans et je n'ai pas vraiment passé ma jeunesse de l'adoration d'Allah. Donc, sur ce plan-là, je suis grillé. Il y a la personne qui était dirigeant et qui est resté juste et équitable, le roi juste. Je n'ai pas de responsabilité dans ce sens-là, donc je ne peux même pas espérer avoir ce grade. Et ainsi de suite, on se dit que bon, ben, il y a des fois où c'est possible, des fois c'est un peu plus complexe, mais là je me rends compte que ça c'est un créneau parfait. Ça c'est vraiment une opportunité pour moi. Je suis jeûneur comme l'ensemble de la Ummah, ce qui veut dire que si je parfais mon jeûne, je le perfectionne, j'atteins l'objectif à travers le somme, peut-être qu'Allah Azza wa Jal me classera parmi les sa'imin qui vont entrer par le bab de Rayyan de le Jannah. Donc ça nous fait comprendre que le jeûne c'est vraiment spécial. C'est vraiment une action qui nous donne un accès direct au Jannah. C'est un charter vers le paradis. Donc je me classe parmi les bons jeûneurs et je me dis qu'il y a quelque chose à gagner. Il y a un effort à produire. On a besoin de montrer, entre guillemets, à Allah Azza wa Jal notre bonne volonté. Parce que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué aux sahaba les vertus, les fada'il, les récompenses qu'il y a de ce mois béni, le prophète alayhi salatu wassalam dans une des versions avait dit « Fa'arullaha min anfusikum khayra » Montrez à Allah le bien qu'il y a en vous. Montrez à Allah ce que vous êtes prêt à faire. Montrez à Allah votre bonne volonté. Et c'est vraiment le moment par excellence où on doit se dépasser mutuellement de l'accomplissement des bonnes œuvres. Je dois redoubler d'efforts en termes de présence, badri, mubakkiran, à la masjid, en termes d'assiduité au salat en congrégation de jama'a, les sunnan, les rawatib, les nafil, les mustahabbat, les tahajjud, qiyamul layl, la sadaqa, bref, toutes les actions. Je dois essayer de faire le maximum d'actions et avec le maximum de ikhlam, de sincérité, tout en recherchant le sifat, tout en recherchant les qualités du mu'min qui accomplit ses actions. Et ça fait partie d'un des objectifs de notre inshallah intervention, c'est on va essayer de rechercher la qualité d'une des actions du mois de Ramadan. On va passer en revue quelles sont les actions phares du mois de Ramadan, on vient de les citer, et on va choisir le Coran et on va essayer de comprendre comment construire une réelle relation avec le Coran. Mais avant d'arriver au sujet du Coran, juste à retenir que, en introduction concernant le mois de Ramadan, dans le Coran, lorsqu'Allah Rabbul Izzah parle du jeûne, Allah nous rappelle que le jeûne avait été prescrit également au peuple avant nous. Kama kutiba 'alal ladina min qablikum. Donc, quand on analyse les tafsir, on sait que Nuh alayhi salam avait l'habitude de jeûner. Kana yasumu ad-dahr. Il jeûnait toute sa vie. Subhanallah. Nuh alayhi salam, et combien de temps il a vécu? Alf sanatin illa 50 ama barakallahu fik. Environ, ça fait combien ça? Ça fait 950 années. 950 années. Et kana yasumu ad-dahr, Nuh alayhi salam jeûnait toute l'année. Daoud alayhi salam, comment était le somme de Daoud alayhi salam? Il jeûnait un jour sur deux. Isa alayhi salam yasumu yawman wa yuftiru yawmayn aw ayyam. Il jeûnait un jour et ensuite deux jours ou un peu plus que deux jours, il ne jeûnait pas. Donc, le somme, le principe de ce qu'on dit en français le carême, ça c'est un amal, une action qui a toujours existé dans l'histoire, dans tarikh al-milal wal-umam, dans l'histoire des peuples avant nous. Et les savants, ils expliquent que si notre Rabb a légiférer, à décréter que toutes les communautés doivent jeûner, al-imsak wa al-ta'am wa al-sharab lillahi azza wa jal, s'abstenir de manger et de boire et des autres pulsions pour Allah azza wa jal pendant un laps de temps, c'est qu'il y a un bien dans cette action. Il y a une sagesse et il y a une hikmah. Et qui dit sagesse, qui dit hikmah, dit qualité à développer et qualité à obtenir. Qui dit qualité sifat muktasaba, sifat à obtenir, dit qualité à greffer dans notre vie de tous les jours. Qualité à garder durant toute notre vie. Et le maslaha, la hikmah, la sagesse qu'il y a de le jeûne, le illa, la'allakum, c'est tattaqun. Verset qu'on a plus ou moins déjà entendu depuis le début du mois à plusieurs reprises, kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, afin qu'on puisse atteindre inshallah la piété. Et les mufassirin rahimahumullah disent que l'ensemble des actions que nous allons accomplir durant ce mois, toutes les actions, on ne va pas les énumérer, et les péchés dont nous allons nous éloigner durant ce mois, et là aussi il n'y a pas besoin de les citer, chacun connaît ses penchants. Chaque personne connaît vers quel péché on penche et quelles sont nos faiblesses. Et à chaque fois qu'on va s'éloigner d'un péché et à chaque fois qu'on va accomplir une bonne action, je vais construire mon capital piété. Je vais construire mon taqwa, je vais renforcer mon iman, parce que la taqwa, c'est quoi ? An taj'ala baynaka wa baynallahi hijab. De mettre une séparation entre toi et la colère d'Allah Azza wa Jal. Les Mufassirin expliquent que arriver à vivre une situation où on ne se met jamais dans une situation, dans un hala, où Allah serait mécontent de nous. C'est-à-dire, ne jamais être dans une situation où on est en train de négliger un wajibat, négliger un ordre d'Allah. Qu'il n'arrive jamais que l'heure de fajr, le adhan est en train d'être donné, où il y a une obligation, je suis chez moi, je dors, et je ne réponds pas présent. Ne jamais être dans une situation non plus où je suis en train de pécher, en train de faire un haram, et qu'Allah m'observe et qu'Allah serait donc mécontent de moi. Ça, c'est la réalité du taqwa. Et quand on parle de taqwa, c'est synonyme de ihsan. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Arriver à un état spirituel, et cet état spirituel ne dépend pas de كثرة الأعمال, ne dépend pas d'une quantité de bonnes actions. Cet état de iman, ça va dépendre d'une sincérité de la relation avec Allah Azza wa Jal. Ça va dépendre de la façon dont j'ai pu développer al-iman billah, al-iman bil malaika, al-iman bil kutub, al-iman bil rusul, al-iman bil yawm al-akhir, principalement, et al-iman bil qada'i wal qadr. C'est-à-dire, en fonction de mon niveau de iman, de foi, les six branches de la foi, je vais construire une relation particulière avec Allah Azza wa Jal qui me permettra, dans une, entre guillemets, dans une simple action, à travers deux rakat que je fais, je peux atteindre un degré de ihsan qui est inaccessible peut-être à l'ensemble de cette ville, à l'ensemble des personnes de cette mosquée. Ça, c'est le degré de ihsan. Que mon iman a atteint un tel degré. J'ai une telle confiance en Allah. J'ai un tel amour pour Allah dans mon cœur. J'ai une telle crainte d'Allah en moi que quand je fais le sijda, c'est exactement comme si, et là on ne fait pas de geste parce que lorsqu'on parle de Rabb, de notre Seigneur, le gestuel est interdit, c'est exactement comme si que je suis devant le trône d'Allah Azza wa Jal et que je suis en train de montrer à Allah Azza wa Jal ma bonne volonté. Je suis en train de montrer à Allah Azza wa Jal mon ikhlas, ma sincérité. Je suis en train de montrer à Allah Azza wa Jal mon istislam lillah, ma soumission à Allah, mon tazallul wal khudu', ma capacité à me courber, à m'humilier devant Allah, à me courber, à montrer à Allah que tu es mon Rabb, tu es mon Seigneur, tu es mon Khaliq, tu es au-dessus de moi et moi je suis ton serviteur, je suis à genoux, je suis en position de génuflexion, en position debout, en position assis, je fais ce que tu me demandes, ya Allah, parce que je t'appartiens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, toute mon existence elle t'appartient, oh Allah, tu disposes de moi comme tu veux, ya Rab, ce que tu révèles, ce que tu m'ordonnes, je l'exécute, ce que tu interdis, ya Allah, je ne le fais pas parce que tu es mon créateur et tu es l'objectif de ma vie. Quand le mu'min atteint cet état de iman, et tout se déroule où ça? Fil qalb. Al-iman mahalluhu al-qalb. La foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est pas forcément faire preuve de largesse ou montrer ou que les gens voient en nous des signes extérieurs de piété. Les signes extérieurs de piété peuvent refléter une piété intérieure qui est vraiment installée. Ça, c'est nurun ala nur. Mais ça ne colle pas forcément. Il y a le nifaq, quelqu'un qui fait des bonnes œuvres et qui intérieurement n'est pas mu'min. Il y a le riya, le suma'a, le shuhra, les trois catégories d'ostentation. Qui est en désaccord, c'est lorsque le cœur et les actions ne sont pas en accord. Le cœur pense d'une façon et les actions font autre chose, des choses plaisantes. Ça fait des grands dangers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shirk al-akbar, al-asrar, pardon, ce qu'il craint le plus pour cette umma, c'est le petit shirk, c'est le riya, l'ostentation. Donc, cet état spirituel qui nous fait rêver, en fait, c'est la seule chose qui doit nous faire rêver, ça. C'est cette chose, c'est que j'atteins le ihsan, que quand je me prosterne devant Allah Azza wa Jal, j'ai le yaqin, la conviction qu'Allah, c'est comme si je suis devant son arche. Et si j'arrive pas, et en commentaire, il y a plein de choses à expliquer, les ulama expliquent que pourquoi est-ce que le hadith est composé de deux parties. Adore Allah comme si tu le vois. Et si tu le vois pas, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à ce degré de spiritualité, parce que l'ihsan est en deux étapes aussi. Il y a le summum du ihsan où c'est comme si tu vois Allah. Bien sûr, on a compris, personne ne voit Allah. Mais c'est une conviction, un iman bil ghaib. C'est ce qu'on va voir. Al-lathina yu'minuna bil ghaib. Un iman bil ghaib qui a atteint un tel degré. C'est vraiment à son apogée. Comme les sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Dans certaines sources, il est dit, à vérifier l'authenticité, c'est une chaîne de narration, que si le ciel s'ouvrait et que les sahaba voyaient le paradis et voyaient l'enfer, ça n'aurait aucune influence sur le iman. Parce que ils y croyaient déjà comme si ils avaient vu. Ils n'avaient même pas besoin de voir. Contrairement au Quraysh qui osait dire, les versets ne me reviennent pas, lorsqu'il mettait au défi le prophète alayhi salatu wassalam, le fatahna alayhi baba min as-sama, et les autres versets, que si le ciel s'ouvrait et que les anges venaient nous montrer la révélation, qu'on voyait le paradis, antunazil alayna, fa'as-sakfa min as-sama, ou kisafa min as-sama, et ainsi de suite, il mettait au défi le prophète sallam, amène-nous une preuve, montre-nous ce paradis, montre-nous qu'Allah existe, ou comme les Banu Israël qui avaient demandé, arina Allah jahra. On aimerait voir Allah, on aimerait une preuve, astaghfirullah, concrète, visuelle de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'était des gens dont la foi n'avait pas pénétré le cœur. Le mu'min qui a développé iman bil ghaib, c'était le paroxysme du iman. On le voyait chez les sahaba. Ils avaient une telle conviction, ils avaient atteint le degré d'ihsan. Ce sahaba qui reçoit une flèche et qui demande à ses compagnons que vous voulez enlever cette flèche, laissez-moi faire deux unités de prière. C'est des trucs. Excusez-moi, on va dire, c'est inconcevable. Il y a un médecin, un cardiologue, qui s'appelle docteur Bousserouel, un petit livre qui a été écrit sur le Coran, hélas, le Coran et le cœur ou la foi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il explique que quand l'homme, c'est un cardiologue, donc il s'y connaît un peu en cœur, quand l'homme a atteint un degré de spiritualité, il arrive à faire abstraction de ses cinq sens. Il arrive à un degré, là on ne parle pas de méditation, on ne parle pas d'autres trucs, là on a bien compris, la concentration, le niveau de dévotion arrive à un tel degré que la personne peut faire abstraction de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, j'aime pas le terme communion, il est dans une communication, dans un échange spirituel tellement intense que c'est comme si qu'il est dans une seconde phase. Et les sahaba, lorsqu'ils étaient concentrés dans la salat, un mur pouvait s'écrouler ou on pouvait enlever une flèche ancrée dans leur cuisse, ils ne ressentaient strictement rien. Ça, c'est quand le iman atteint son paroxysme. C'est-à-dire que quand on dit ça, c'est frustrant. Et oui, c'est frustrant parce qu'on est loin de là. Mais le ihsan, c'est vraiment l'objectif et ça, c'est l'aboutissement de la taqwa. Comment on obtient l'ihsan? C'est pas avec beaucoup de diplômes. C'est pas en lisant bien le Coran. C'est pas que je lis le Coran d'une voix magnifique, ou je maîtrise les 10 lectures, ou les 8, les 7 lectures, ou que j'ai tel truc, que je vais atteindre l'ihsan. Du tout. L'ihsan, c'est une relation intérieure qu'on développe avec Allah, qui est basée sur l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, le muraqabatullah. Le muraqabatullah, dans le sens de shari'i, c'est la pensée d'Allah permanente. Depuis le matin, je me réveille. Jusqu'au soir, je me couche, j'ai la pensée d'Allah dans mon cœur. C'est quoi avoir la pensée d'Allah dans mon cœur? L'avoir la pensée d'Allah dans mon cœur, c'est pas avoir un tasbih dans la main. C'est pas avoir un petit truc qu'on décompte. C'est pas faire le dhikr forcément, bil lisan. C'est avoir cette conviction qu'Allah m'entend, qu'Allah me voit et qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur en permanence, à chaque instant. Maintenant, imaginez celui qui a atteint ce degré de muraqabatullah. Ça, c'est bien expliqué dans le sharh de Riyad al-Salihin. Et là, j'invite chaque personne qu'on fasse un effort à travers le ilm, la connaissance religieuse. Je pense que vous l'avez rappelé ici ou dans une note majlis à Saint-Louis, qu'on doit absolument mettre en place. On doit solliciter nos savants. Ou alors, on fait l'effort nous-mêmes. Chaque mu'min a besoin, dans une semaine, un cours de tafsir et un cours de hadith au minimum. Sinon le iman, il va diminuer et on ne réactualise pas sa foi. On a besoin au moins d'une relation avec le kalamullah, mais une relation bil ma'na, le sens de la parole d'Allah. Et on a besoin d'une relation avec kalamul nabi sallallahu alayhi wa sallam, une relation avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas uniquement lien un hadith du tableau masjid, non. C'est comprendre le sens profond du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec amal bien sûr, avec tatbir, avec application de notre vie. Car ce n'est pas pour rien, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle taraktu فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي أمة أمة. Je vous ai laissé deux choses. Restez accrochés à ces deux choses et vous ne serez jamais égarés. C'est quoi ces deux choses? La parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si j'analyse mon rythme de vie, j'analyse la vie du musulman lambda, du musulman moyen, on a tourné le dos au Coran et on a tourné le dos à la sunna tamamen, complètement. C'est-à-dire que, à part le talib al-ilm, bien sûr, à part l'étudiant en sciences religieuses, est-ce que le croyant, est-ce que le musulman moyen, est-ce qu'il a une relation permanente avec la parole d'Allah? Et la relation avec Kalamullah, c'est une relation complète, comme Allah Azza wa Jal attend du croyant. Et non pas faqat tilawatan, abadan. Celui qui pense que le Coran a été révélé pour être lu, mais il n'a pas compris le message du Coran. Oui, le Coran a été révélé pour être lu, mais le Coran a été révélé pour être lu, awalan, pour faire le tadabbur, pour qu'on médite sur le sens des versets du Coran, l'ilfahm, pour comprendre, et pour le mettre en application dans notre vie. Hadal maqsad. Aujourd'hui, je ne porte de jugement sur personne, mais à travers notre petite expérience de la vie, on se rend compte, en décryptant, hier on était dans un programme avec des jeunes, à Saint-Denis, on essaie de diagnostiquer un peu les grands problèmes de notre société, malgré la présence d'infrastructures, malgré la présence de savants, malgré la présence peut-être plus de moyens que dans d'autres pays, en termes de facilité d'accès à la pratique religieuse, qu'est-ce qui fait qu'il y a il n'y a pas de réel lien avec le dîn? Il y a un truc qui manque. On sent qu'il y a un truc qui manque, mais c'est qu'on a zapper complètement la relation mubashir, la relation directe avec le livre d'Allah et avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est khasara uvuma, ça c'est la pire des choses, parce que dans le Coran Allah nous interpelle, nous qui ne construisons pas une relation directe avec le Coran, Allah azza wa jalla nous fait des reproches à plusieurs reprises. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. En ce sens, ne médite-t-il pas sur le Coran? Et puis il y a d'autres versets qui vont dans le même sens. Méditer sur le Coran, c'est un devoir du musulman. Construire une relation avec le Coran, construire sa vie à partir du Coran, c'est notre dostour, c'est notre marji, c'est notre ligne de conduite. Pourquoi est-ce qu'on s'en est détourné? Pourquoi est-ce qu'on a donné l'importance du Coran uniquement pour les imprimer, pour les mettre dans les placards, pour les enseigner aux enfants dans les maqatib, dans les écoles, et idéalement, et Wallah musta'an, pour nous le summum, c'est quoi? La fierté d'une famille, c'est quoi? Mon garçon, on a fini katam. Allons distribuer gâteau. Mon garçon, on a fini hafez. Allons faire un grand manger. La fia fakhar. Oh, grande fierté. Ya izza. L'honneur pour toute cette famille. Et attends, on monte de grade. Mon garçon, qu'est-ce qu'on croit au Coran? Mon garçon, là ton premier. Mais là, c'est franchement, c'est comme si que Abwaab al-Jinan, les 8 portes du Jannah étaient ouvertes pour moi, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants. Mon garçon, qu'est-ce qu'on Coran? C'est bon, il est bon, khalas, mahtaj. Il n'y a plus besoin d'aller plus loin. On est Jannati, Abu Bakr, casse pas la tête, m'arrive. Garde la place côté haut. Garçon, qu'est-ce qu'on Coran? Ou mieux encore, on monte de grade. Mon maman, il a gagné la place, il m'a amené à la vie. Grand Massé de Zanni, ou Grand Massé de Saint-Pierre. Ya Fakhar. L'honneur, c'est comme si ça avait été écrit dans l'histoire, tarikh, de la famille un tel, de la famille un tel, que son fils, en l'an 1952, a eu l'occasion d'officier la prière en congrégation de Tarawih. C'est ça, ça va pas au-delà de ça. Après, bien sûr, si il y a parti marquant, il y a quelqu'un qui est au courant. Bon, là, c'est à notre niveau, mais ça se produit un peu moins souvent. Non, je caricature, excusez-moi, on ne se moque de personne, on ne fait pas de stéza, on ne déconsidère pas nos acquis. On a des acquis, alhamdulillah, qu'on ne retrouvera pas dans d'autres pays. On a des acquis qu'on ne retrouvera pas en termes de hufaz du Coran, de maîtrise, d'organisation, de présence de savants, de niveau de lecture. On prend n'importe quel imam qui est dans n'importe quel masjid. Le tajwid est parfait, le marsal al-juhuluf est parfait. Donc on a des acquis, mais alhamdulillah, nous en remercions Allah Azza wa Jal. Seulement, il nous manque ba'd al-jawanib. Il y a certains points qui manquent. Et tant qu'on ne va pas combler ça, hein, on ne pourra pas progresser dans le din, dans la religion. On n'atteindra pas réellement la taqwa et on ne pourra même pas espérer atteindre le ihsan. Parce que les actions, alhamdulillah, ça va nous apporter des hasanats, mais on a besoin de faire un lien entre notre cœur et kalamullah. Ça, c'est essentiel. Si notre professeur sallam a pris soin de dire que in tamassaktum bihi, si vous vous y accrochez, et le professeur sallam n'a pas dit in amiltum bihi ou in darastumuhu, non, le professeur sallam dit in tamassuk, et at tamassuk c'est vraiment s'accrocher. Le terme tamassuk est utilisé en arabe pour s'accrocher, rester ferme, s'agripper. Donc le verset, le hadith stipule que le croyant doit s'accrocher au Coran et à la sunna. Quel sera le natija, quel sera le résultat, on ne sera jamais égaré. Dites-moi, ne vivons-nous pas une période où la dalala, elle est partout? Ne vivons-nous pas une période où, Allah musta'an, nous voyons le kufr, nous voyons le shirk, nous voyons la ma'asiyah, la désobéissance aux ordres d'Allah, nous voyons le fisq dans le sens arabe, hein, le fait que le péché soit ancré dans notre vie, ça devient une généralité. Ne voyons-nous pas les innovations, la bid'a s'installer? Ne voyons-nous pas un éloignement au fur et à mesure des principes du din? Ça, c'est quand la taqwa ne s'est pas réellement installée dans le cœur. Qu'est-ce qui fait que durant un mois béni, on a une masjid qui est remplie? Et qu'est-ce qui fait qu'après le Eid, la masjid va se divider comme elle s'est remplie subitement? Dans les grandes villes, excusez-moi, je vais pas dire ça de ce sens, mais quand il y a, c'est le soir pour voir la lune, n'espérez même pas vous garer au centre-ville. Impossible. C'est une fête nationale. Les gens viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. C'est un Eid avant le Ramadan. On va chercher, on va trouver la lune. Et, mashallah, lorsque la lune était vue, il y a plus de place. Mashallah, les masajids sont pleines et remplies ici certainement. Mais le lendemain du Eid, le 2 Shawwal, venez à Salat al-Fajr. C'est comme si que on avait retourné 30 pages, on était revenu en arrière, l'histoire se répète et les gens n'ont plus d'intérêt pour la masjid, pour la maison d'Allah, pour le sejida. Autant ils trouvaient du plaisir de le sejida, mais ils n'en trouvent plus. Ça veut dire qu'ils ne trouvaient pas vraiment de maladie. Ils n'avaient pas trouvé halawat al-iman. La douceur de la foi n'avait pas pénétré les cœurs. Parce que si la douceur de la foi, vous avez tous ces termes-là, hein, on pourrait mettre dans un même tiroir. Halawat al-iman, taqwa, ihsan, muraqabatullah. Tous ces termes-là, ce sont des termes qui vont dans le sens du haut niveau de spiritualité, de l'attachement profond du cœur avec Allah Azza wa Jal. On passe d'un thème à l'autre un coup. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam avait dit que Abu Bakr ne vous a pas dépassé bi kathratil a'mal, lakin bi shay'in waqara fi qalbi. Abu Bakr ne vous a pas dépassé par beaucoup de bonnes actions. Est-ce que Umar ibn Khattab ou est-ce que Uthman n'avait-il pas donné plus en termes de quantité, hein? N'avait-il pas donné plus d'argent que Abu Bakr al-Siddiq lors de la bataille, lors de la préparation de l'armée pour, comment s'appelle encore ça? Tabouk, barakallahu fik. Vraiment, on a nos chouyours qui sont présents lors de la bataille de Tabouk. Machallah, le père de Mali Mohammed n'est pas là. C'était la condition. Hein. Lors de la bataille de Tabouk, Abu Bakr avait donné Uthman ibn Affan avait donné le tiers, il me semble, non? Si je ne me trompe pas, Omar avait donné la moitié et Uthman ibn Affan le tiers. Donc une portion inférieure en termes de portion par rapport à ses biens, mais en termes de quantité, Uthman ibn Affan était beaucoup plus aisé, beaucoup plus riche qu'Abu Bakr al-Siddiq. Donc en termes de dinar et de dirham, ça représentait plus. Mais le sacrifice d'Abu Bakr, c'était un autre niveau. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas cherché. Bon, on donne ça, mais il faut garder un peu, il faut faire. Il ne s'est même pas fait ficar pour sa femme et ses enfants. Il a dit qu'il y a un besoin. Haja, on donne tout. Et Allah nous donne en retour. Et le Prophète sallam, lorsqu'il a vu tout ce qu'Abu Bakr avait amené, il dit: Abu Bakr, tu as laissé quoi pour ta famille? Il dit: je les ai laissés. Allah et son prophète. J'ai laissé Allah et son prophète. Il a dit: Allah et son prophète, et ils vont gérer. Yatakafaloun. Ils vont gérer ma femme, mes enfants. Ça, c'est pas un souci. Je mets tout dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, le Prophète sallam a dit que Abu Bakr ne vous a pas dépassé par beaucoup sur le plan quantitatif de bonnes œuvres. Lakin bishay in waqara fi qalbi. Mais il y a quelque chose qui est entré dans son cœur. C'est l'imanu billah. Un iman qui atteint un tel degré qui a dépassé l'ensemble de la Ummah. Une crainte d'Allah qui a dépassé l'ensemble de la Ummah. Un muraqabatullah, une pensée permanente d'Allah, qu'il n'y a pas une seconde qui se passait sans qu'Abu Bakr pense à Allah. Est-ce que Allah, à ce moment, est satisfait de moi? Ou est-ce que je suis en train de décevoir Allah Azza wa Jal? Ça, c'était le niveau de spiritualité atteint par Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et c'est là notre modèle. C'est ça qui nous manque. Et pour arriver à ce niveau, il y a différentes actions à faire. Il y a les efforts qu'on est en train de faire en ce moment pendant le mois de Ramadan, mais il y a une connexion. C'est comme si vous avez un portable de, mashallah, hyper sophistiqué, tout ce que vous voulez, il y a tous les programmes, les machins dessus, mais vous ne le connectez pas. Vous ne le branchez pas tous les soirs. Vous ne le branchez pas, vous ne chargez pas la batterie. Ben vous ne chargez pas la batterie. Vous pouvez avoir les meilleures applications ou les meilleures connexions, le meilleur abonnement possible. Il ne vous apportera pas grand-chose. Et la connexion du mu'min, c'est avec Kalamullah. Pensez-vous que la connexion du musulman, ça peut se faire d'une autre façon? Dites-moi. Si vous avez une autre solution, dites-moi. Est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'on est un peu à côté de la plaque depuis très longtemps? Est-ce que on a réellement, Allah Musta'an, développé cette impression que le Coran a été révélé pour être lu? Ben, si c'est vraiment ça notre conviction, ben là je peux vous dire clairement qu'on est complètement hors sujet. Tanzilan, tilawatan, tadabburan, fahman wa amalan bi. Comme on a dit tout à l'heure, a été révélé pour être lu, pour qu'on lit dans la salat également, pour qu'on officie la prière, pour être compris, médité, pour en faire un mode de vie. Pour en faire un mode de vie, le mettre en pratique. Et c'est le Coran qui sera notre guide dans toutes les situations de notre vie, ainsi que les hadiths, la vie, la sirah de notre prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça va transiter par le ilm shari'i, par la connaissance religieuse. Si on ne montre pas d'intéressement ou d'attrait pour le ilm, pour la connaissance religieuse, on ne progressera pas. Ça va être un cycle permanent. Ramadan arrive, je viens, je prie, je jeûne, je fais des cours Allah, je donne sadaqa, je lis le Coran. Le Eid arrive, je m'en vais. Attends, on commence un peu plus tôt. Le 27e Rajab, grande nuit. D'accord? Je suis là, toute la famille là, papa, maman, papa, grand-père, les enfants, on est là, on est à fond, on écoute le bayan. Et quand le bayan est terminé, j'ai l'impression que j'ai vraiment suré ce soir. J'étais là. Donc, j'ai atteint l'objectif de ma vie de musulman qui commence par le 27 Rajab. Mais le 28 Rajab, il ne faut pas me chercher pour Salat al-Fajr. Non. Ben, 28, c'est fini. 27, c'était hier soir. Je serai de retour quand? Quand? Le 15 Sha'ban. 15 Sha'ban, Mayhtaj, c'est encore mieux. Là, je viens à fond la panoplie du musulman. Là, je vais répondre présent. Le lendemain, quand même, il y a des gens qui viennent. Hein? Mais le 17 Sha'ban, il ne faut pas me chercher à la masjid pour Fajr. Je serai de retour quand? Quand on va chercher la lune, et je démarre le cycle de Ramadan. Et quand le Shawwal, la lune de Shawwal a été vue, là aussi, j'hiberne, je retourne à la vraie vie, na'oudhou billah, à la vie du dunya, et puis je serai de retour pour Eid al-Adha, pour le Bakrid, là je serai présent. Et attention, là il y aura l'émulation, parce qu'il y aura quoi? Bakrid. Il y aura quoi? Commence par un M, et puis il y a le mot B. Bœuf, le Madja bœuf. En fait, ma vie de musulman, c'est ça. 27e, 15 Shaban, Ramzan, 15 Z, Kurbani, choisir le bœuf. Après, de temps en temps, n'est mayet, nous ça va. N'est nika, ben on sera là. Un grand malin, un grand molissable, il sort de je sais pas quel pays, il parle une langue qu'on ne comprend pas. Si on ne comprend pas, c'est que ça doit être puissant. Donc là où vient, on écoute. C'est ça, Allah, Musta'an, excusez-moi de caricaturer de cette façon. Mais notre vie là, dites-moi, est-ce que ça tourne pas comme ça, ça? Ça tourne et on revient en arrière. Ça tourne, on avance, Ramadan, 27e, les 10 derniers jours de Ramadan, on a fait pas mal d'efforts. As'alullah al-tawfiq, al-qaboul, Allah accepte. Mais après, on revient en arrière. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. Il y en a qui avancent, il y en a qui reculent. En commentaire, les Mufassirin disent فَمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمَ, complété, celui qui a compris, فَقَدْ تَأَخَّرَ بَارَكَ. Celui qui n'avance pas, il recule. Personne ne reste au même niveau de iman. Al-Iman, ulama d'Aqida, Ahl al-Sunnah al-Jama'a disent Al-Iman, on va voir, c'est dans Al-Ladina Yu'minuna bil-Ghaib, si on parle d'Alif Lamim, Al-Iman, dans une des définitions d'Iman, Al-Iman yazid wa yanqus. Soit il augmente, soit il diminue. Yazid bil-ta'a wa yanqus bil-ma'siya. Les bonnes actions vont augmenter la foi et les péchés vont diminuer le Iman. Donc ce serait une illusion que de croire que je vais me baser sur ces 5 ou ces 6 cycles de l'année et avec ça, je m'avance doucement, doucement, doucement jusqu'à ma tombe, jusqu'au Firdaus al-A'la min al-Jannah. Ce serait une illusion totale. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, j'allais dire d'année en année, de jour en jour, ils devenaient meilleurs. De jour en jour, ils écoutaient le wahi. Et c'était ça, le gros avantage qu'ils avaient, c'est que yawmiyan, soit tous les jours, soit plusieurs fois par jour, ou alors échelonné par, Allahu a'lam, par semaine, ou régulièrement, la révélation descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi salatu wa sallam faisait tablir al-risala. Il propageait, il expliquait qu'est-ce qu'Allah azza wa jal a révélé. Et très souvent, on voit dans des hadiths que salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faqama, fakhatba an-nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la prière, s'est levé, il a fait un khutbah. C'est pas ce khutbah, c'est pas le Jum'a. C'est un discours, un serment. De temps en temps, il se levait, il disait, aux musulmans, voici telle chose, Allah vous a révélé telle chose, Allah nous a ordonné, Allah nous a interdit, Allah nous a rappelé. Donc, il y avait une remise en question, une réactualisation des MAJ de la foi, des mises à jour régulières du iman et la croyance augmentée yawm ba'd yawm. Maintenant que l'ensemble des données de mise à jour, de réactualisation de la foi, elle est complète. Les sahaba, ils l'apprenaient jour après jour. Comment augmenter son iman? Comment renforcer sa relation avec Allah? Comment obtenir rida Allah? Est-ce qu'on pense à ça? Est-ce que ça fait partie de mes objectifs, rida Allah? Rechercher le contentement d'Allah. Quand je fais une bonne action, il faut vraiment que j'ai ça en tête, mais dans ma vie de tous les jours. Est-ce que je me dis, comment est-ce que ce jour, cette journée de dimanche, à l'issue de cette journée, quand je fais le bilan, est-ce qu'on fait un bilan aussi? Ça, c'est important. Est-ce qu'à l'issue de cette journée, je suis capable de faire deux fichiers, un fichier des bonnes actions, un fichier des péchés, et de me rendre compte que j'ai fait plus de bonnes œuvres que de péchés. Et que de yom ba'da yom, jour après jour, je vois mon fichier bonne action du dimanche 21, de bonne action du lundi 22, il est plus important que bonne action du dimanche 21, et ainsi de suite. Que jour après jour, mes a'mal saliha augmentent et mes péchés diminuent. Que j'arrive à quelque chose, j'ai un cheminement permanent vers Allah Azza wa Jalla. C'était ça la qualité, une des qualités de Sahaba. Ils travaillaient le iman, ils augmentaient leur relation avec Allah Azza wa Jalla, parce que yom ba'da yom, ils avaient le Coran qui était révélé et donc ils mettaient en pratique. Maintenant, comme on a dit, tout a été révélé. Depuis le début jusqu'à la fin, se trouve dans les masahif, dans les livres, dans le Coran. Tout est là et le prophète a dit que maintenant accrochez-vous à ça. Lan tadullu abada. Vous ne serez jamais égaré. En commentaire, les muhaddithin disent, même dans les pires des périodes, quelle est la pire des fitnas que cette umma va connaître? Dajjal, barakallahu fikum, l'antéchrist. Même à l'époque de Dajjal, on s'accroche à quoi pour lutter contre Dajjal? Tavis anti-Dajjal. Suratul Kahf. Oui ou non? Le prophète nous a expliqué comment être protégé de Dajjal, c'est par le biais de Suratul Kahf. Et là, ça nous ramène vers le même discours que en introduction. Mais c'est quoi? Est-ce que je dois mémoriser sur les Kahf? Qui ne connaît pas Kahf de cette assemblée? En général, l'ensemble, ou plus de la moitié, ou trois quarts de la Ummah, on connaît, à force de lire tous les vendredis, à un moment donné, on mémorise sur le Kahf. Mais est-ce que le simple fait de mémoriser Ça veut dire qu'on est protégé. Est-ce que tous les hufaz du Coran, donc, Mimbab Aoula, encore mieux, est-ce que tous ceux qui mémorisent le Coran, ils ont la garantie de protection contre l'antéchrist? Ça n'a pas été dit, ça. Jamais été dit. Dire que ce n'est pas le hifz de Al-Kahf, c'est tu le lis, bien sûr, et tu demandes la protection parce que tu mets en pratique cette sunna, mais également, les Mufassirin disent que dans le Kahf, il y a des enseignements clés. Il y a des événements qui sortent de l'ordinaire. Il y a des événements qui nous interpellent très concrètement sur notre iman bil-ghaib. Il y a des histoires sur le Kahf qui interpellent notre foi sur l'invisible et que lorsque le croyant les a lus, les a compris et il a iman dessus, ben il atteint un cap, il va dépasser un cap en termes de croyance en Allah Azza wa Jal, que même si Dajjal vient faire son siècle, il vient faire des miracles, la personne ne croit pas. Parce qu'il a construit une relation avec Allah Azza wa Jal, une conviction sur les promesses d'Allah Azza wa Jal, sur le pouvoir d'Allah Rabbul Izza, sur les miracles qu'Allah accomplit et qui émanent de sa qudra et qui n'ont aucun rapport avec les sorcelleries, les sihrs ou les illusions de Al-Masih al-Dajjal. Donc les savants disent que Kahf, oui, mais Kahf de façon intelligente, avec compréhension, tadabbur et réellement comprendre, réaliser quel est le contenu de la sourate Al-Kahf. Vous comprenez comment on travaille le Coran, comment le Coran est un lien et nous permet d'être éloignés des fitnas, mais ce lien, on le construit d'une certaine façon, de façon intelligente. Alhamdulillah, cet exemple nous vient à l'esprit que quand Dajjal, on a un exemple concret, le danger, le fitna, c'est Dajjal, la méthode, c'est Al-Kahf, mais cette méthode, cette arme, qui est le Coran, en guillemets, cette protection plutôt, on doit l'utiliser, on doit ouvrir ce bouclier de façon intelligente. Si vous avez un moyen de vous défendre et que vous le gardez en poche, ça ne va pas vous protéger contre l'ennemi. Quelqu'un vous attaque, vous avez une bombe lacrymogène et tout, je précise lacrymogène, vous avez quelque chose là, mais vous le gardez dans votre poche avec son bouchon, avec sa fermeture, utilisez-le. Sachez comment l'utilise, sachez c'est quoi son contenu, sachez c'est quoi ses propriétés et comment vous protéger. Enfin, on a compris la métaphore. Donc ce surat Kahf, on doit s'empresser de le comprendre, d'étudier verset par verset, mot par mot, pour que la réalité prenne le cœur et que là ça devienne une réelle protection. Aliha Faqis, on fait qiyas, analogie sur cet exemple pour qu'on comprenne que si on veut atteindre les plus hauts degrés de l'iman, on doit étudier le Coran. Et ça commence aujourd'hui. On a fait un petit tour de table hier avec des jeunes. On a demandé à quelques personnes, quel est ton objectif durant ce mois de Ramadan? On a essayé d'amener nos shababs vers un Ramadan qu'on appelle constructif. Pas juste que tu le vis et puis ça s'éteint et ça part et tu passes à autre chose. Non, dis que ce Ramadan 2015, donne-moi une bonne action que tu as l'intention de garder, une résolution pour l'après Ramadan et un péché que tu as l'intention d'éradiquer de ta vie. Et Alhamdulillah, on a eu l'occasion d'écouter et à 90%, ils nous ont tous dit que parmi les péchés qu'ils vont éradiquer, c'est quoi d'après vous? Le contrôle du regard, Rabdul Basar. Oui ou non? C'était à l'unanimité, parce que tout le monde reconnaît que c'est un fléau. Et parmi les bonnes actions, nous on a essayé de les inciter vers une bonne action. Et puis il y a eu d'autres idées que j'ai trouvées, mashallah, magnifiques. Moi j'ai dit que faisons l'intention qu'à partir sur Ramadan par exemple, tous les lundis, les jeudis, je vais jeûner. Après Eid, tous les lundis et tous les jeudis, je fais niyat de fakarem, nafil. Et comme je vais me réveiller pour le sehri, pour le suhur, pour le jeûne, je me réveille 10 minutes avant et je fais 2 rakas de tahajjud. Et quand j'ai fini mon 2 rakas de tahajjud, on était très soft avec eux, on a dit que pas besoin de t'attarder trop, va manger en te levant et en allant dans la cuisine, fais quelques doigts de ton cœur. Donc tu as eu qiyamul layl dans la dernière tiers de la nuit où les doigts sont acceptés, tu as eu quelques invocations et tu as eu 2 jours de saum, de karem, de rosa dans la semaine et mashallah ce sera un acquis énorme. Fais le azm. Et ils ont, pour la plupart, ils ont fait l'intention, on a même fait lever les mains pour faire genre alhamdulillah, on est motivé. Inch'Allah, qu'Allah accepte ce azm, cette intention. Ça c'est important, prendre une résolution. Si on ne prend pas une résolution après ce mois, on n'a pas avancé. Et pour le péché, on a vu quel péché ils ont décidé d'abandonner. Et là, il y a eu un jeune qui a dit que je vais étudier un peu plus le Coran. Et ça, c'est une idée magnifique. Et nous, dans cette assemblée, par rapport au thème qu'on est en train de développer, on se dit qu'à partir de ce Ramadan 2015, c'est une suggestion qui sera profitable pour nous sur le plan spirituel, qui va nous permettre de nous rapprocher de nos ulama également, de créer un lien. Parce que le alim, c'est pas juste celui qui enseigne les makatib. C'est pas juste amara, balara, enseigner les ashraf al-qawa'id et faire katam aux élèves. Le alim, il doit être au centre de la masjid. il mérite le respect qu'il mérite par rapport au ilm qu'Allah Rabbul Izzah lui a accordé. Et le Prophète dit Allah Azza wa Jalla qu'on dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. On se réfère aux savants. Et donc ça nous permettra d'avoir un lien avec les savants et de les inciter aussi. Dit, ben, il faut qu'on ait un darj de tafsir une fois par semaine et ainsi de suite. Donc notre suggestion, c'est qu'on crée une relation avec le Coran à partir de ce jour. Quitte à réduire notre nombre de khatam. En général, dans un ramadan, la moyenne, les gens ils font au minimum 3 khatam le Coran, ce qui est, mashallah, magnifique. Certains ils font plus 4, 5, 6. Il y en a qui font tous les 3 jours. Il y en a qui, mashallah, arrivent à lire 10, 12, 10 sipara par jour. Maintenant, si on se dit qu'on va travailler ce dossier, ce amal, tilawatul Qur'an, d'une autre façon, je vais peut-être diminuer mon nombre de katam, mais je vais procéder à une lecture intelligente du Qur'an, que je prends un Qur'an avec traduction en français, je lis les versets en arabe, et je lis la traduction, et puis idéalement, je voulais amener Tafsir ibn Kathir en français, je l'ai oublié à la maison, pour vous montrer que ça existe, et je garde Tafsir ibn Kathir, par exemple, parce que c'est le seul qui est traduit en français, et je le garde à côté de moi, et à chaque fois que je passe un ruku, ou un hizb, ou un juz, comme vous voulez, je lis, et je comprends. On ne deviendra pas mufassil, c'est pas le but. On va créer un lien avec le Coran. Et vous allez vous rendre compte que le Coran est une source de richesse inépuisable. Et que vous vous dites que bon, aujourd'hui je vais lire 10 pages d'Ibn Kathir, vous allez vous rendre compte que vous allez lire peut-être quelques lignes. En fait, vous allez lire, oui, 10 pages. Vous avez l'impression que 10 pages de tafsir égale 10 pages de Coran. Donc ça fait un demi-sipar à peu près. Vous allez vous rendre compte que 10 pages d'Ibn Kathir, c'est pour 2 versets. Ou parfois il y a 15 pages, c'est pour développer un seul thème. Et là on se rend compte que subhanallah, le Coran c'est une richesse incroyable. Oui, c'est une richesse incroyable, c'est kalamullah. Vous attendiez à quoi? C'est la parole d'Allah. La parole de notre Seigneur qui est parmi nous. Il est normal que c'est ajib. C'est tout simplement incroyable. Donc, et là on va se rendre compte que le nombre d'années que j'ai passées sans m'accrocher au sens du Coran, c'est vraiment dommage. Et quand une personne, il devient amoureux du Coran de cette façon, je vous assure, il devient addict. Il y a une addiction. Comme certaines personnes sont addictes de certaines choses, ou il y en a qui aiment regarder des séries, qu'il faut absolument voir la suite, sinon son coco il bloque, quoi l'arrivée dans Twilight, quoi l'arrivée dans Vampire Diaries, quoi l'arrivée dans telle chose, ainsi de suite. Si je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est un problème. Je ne sais pas, je vais chercher le résumé du feuilleton. J'ai besoin de savoir, on devient addict. On devient accro à certaines choses. Je vous assure, ce Coran apporte une lumière dans le cœur. Et quand cette lumière s'installe, elle vous apporte une sérénité. Il n'y a pas un programme, un dars qui nous apporte plus de bonheur, plus d'émancipation sur le plan spirituel que l'étude du tafsir. Ça dépasse n'importe quel autre thème du dîn, de la religion. Parce que ça c'est la parole d'Allah et le cœur là, il a grandement besoin de ça. Parce que le prophète m'a dit que si vous accrochez, vous ne serez jamais égaré. Ça veut dire que l'homme a besoin de ça. Le cœur, dans sa façon qu'Allah Rabbul Izzah l'a créé, le cœur a besoin de la pensée d'Allah. Le prophète, le Coran, par Allah, a dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul quloub ». C'est par la pensée d'Allah que le cœur va trouver une quiétude, la tranquillité. Donc, on a vu qu'il y a des actions phares durant ce mois. Et puis, on va conclure, commencer et conclure, il y a le jeûne, il y a le namaz taravi, il y a le tahajjud, il y a la lecture de Coran, ça fait 3, 4, il y a le dua, les invocations, il y a le dhikrullah, il y a la sadaqa, il y a le sihri, il y a le iftar, ça fait 9 à peu près, hein. Il y a 9 actions, il peut y en avoir plus, c'est ce qui m'est revenu, il y a à peu près 9 ou 10 actions qui meublent notre quotidien du ramadan, et ces actions-là, tout le monde le fait en général. Maintenant, il y a deux façons de les accomplir. Soit on le fait de façon traditionnelle, on les répète, sans comprendre l'objectif, le sens et le ruh, l'âme qu'il y a dans ces actions, ou alors je le fais d'une façon impliquée, intelligente, et je comprends vraiment tout ce qu'il y a à gagner de cette action. Et donc là, j'en ressors avec un atidja, un résultat concret. Et nous, et chacune de ces actions, mis à part, on va dire, le suhur, l'iftar, où il y a un peu moins à dire, mais chacune des actions, que ce soit le jeûne, le namaz tarawih, le tahajjud, et ainsi de suite, ou le dua, il y a énormément à prendre de ces actions. Nous, on va se focaliser sur tilawatul Qur'an, sur la lecture du Qur'an, comme on l'a déjà bien expliqué là en introduction, comment travailler notre relation avec le Qur'an, et on va prendre comme exemple des versets que tout le monde connaît. On aurait vu chose Al-Fatiha, c'est après qu'on s'est dit qu'Al-Fatiha, ça aurait été bien aussi, mais khair, on va essayer de voir le sens. Là, on ne peut pas se permettre, après une heure, on ne va pas faire un tafsir vraiment, mais passer en revue quelques lignes de la sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Pourquoi sourate Al-Baqarah? Parce que c'est déjà le plus grand, la plus grande sourate du Coran, et on va voir quelques versets de la sourate Al-Baqarah. C'est le premier sourate de le tartib du Coran après Al-Fatiha, et en général tout le monde mémorise Al-Fatiha, Al-Baqarah jusqu'à Muflihun. Tout le monde, à force d'écouter les khatm al-Qur'an, on connaît jusqu'à Muflihun au moins par cœur. Et à chaque fois qu'on commence un khatm al-Qur'an, ben on démarre par Al-Fatiha et par Sourate al-Baqarah. On suit le tartib, d'accord? Donc on passe en revue, mais j'estime qu'on passe trop vite. On passe trop vite. Et le fait de mettre un peu le projecteur sur les premiers versets qu'on lit quand on commence un khatam, ça pourra, Inch'Allah, attirer notre attention sur les 13 ans qu'il y a dès les premiers pas qu'on fait dans notre Khatm al-Qur'an et qu'on franchit trop vite. Et que peut-être, on pourrait se dire que maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur ces versets et pour essayer de les décrypter. Savez-vous, il y a combien de versets de la Sourate al-Baqarah? Il y a 286 versets. Il y a combien de mots de la Sourate al-Baqarah? Mais qui c'est qui a du temps pour aller compter ça? Les amoureux du Qur'an l'ont fait. Les amoureux du Coran l'ont fait, et Ibn Kathir relate qu'il y a 6121 mots de la sourate Al-Baqarah, depuis Alif Lam Mim jusqu'à la fin de Rabbana. Il y a 25500 hurufs, lettres, Alif, Lam, Mim, Dal, Lam, Kaf, Dhalik al-Kitab, et ainsi de suite. Il y a 25500 lettres de la sourate Al-Baqarah. C'est un chiffre énorme. Ça crée quelque chose en nous de savoir qu'il y a 25500 lettres? Est-ce que ça ne nous donne pas une idée, ça? Ewa, barakallah fi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que pour chaque lettre, il y a des hasanat, et le prophète dit, je ne vous dis pas alif lam mim, c'est un alif, c'est une lettre. Lam, il y a une hasanat. Mi, il y a une hasanat. Et ainsi de suite. Et là, on a 25500. Quand on fait un khatm al-Qur'an, en général, quand on s'assoit, on lit au moins, c'est pas là, au moins, d'accord? Et dans une journée, on lit, en général, la moyenne, c'est de lire 3 sipara par jour du mois de Ramadan. Donc, la sourate al-Baqarah, on le couvre en un jour. En général, en jour, on fait alif lam mim, ça y roule avec tilkar rusulu. Donc, on complète la sourate al-Baqarah. Mais que je prenne conscience, déjà, du nombre de hasanat que j'ai eu en cette journée de lecture. Ça, c'est également pour ne pas dénigrer la lecture, pour pas qu'on pense que bon, ça veut dire qu'il ne sert à rien à lire, il faut comprendre. Non. La lecture est essentielle. Imaginez combien de hasanat on a déjà obtenu, qu'on soit conscient ou non. Qu'on connaisse les récompenses ou non, de toute façon, Allah il est karim, Allah nous les accorde. Mais juste dans l'étape, la première étape qui est la lecture, le nombre de récompenses qu'on a déjà obtenues de la part d'Allah Azza wa Jal, ça nous fait comprendre que ce Coran est un trésor sur le plan spirituel, mais également un trésor par rapport aux hasanat, aux récompenses qu'il peut nous faire obtenir. Quelques hadiths qui parlent de la sourate al-Baqarah, hadith qui est rapporté par le Moussa Imam Ahmed, dans lequel le prophète alayhi salat wa salam rappelle que la Baqara c'est vraiment le summum du Coran, et nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malaka, que à chaque verset, à chaque ayah de la Baqara qui était descendue sur cette terre, il y avait 80 malaika qui accompagnaient chaque ayah de la Baqara. Pour qu'on comprenne vraiment comment la sourate al-Baqarah, c'est un trésor. C'est comme on pourrait dire, c'est comme vous voyez un convoi exceptionnel qui se déplace d'un lieu, dans un endroit là. Excusez-moi, l'exemple est totalement décalé. La sourate al-Baqarah, chaque ayah a été accompagnée par 80 malaka, par 80 anges, tellement c'est énorme la sourate al-Baqarah. Et Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ce qu'on appelle ayatul kursi, était min tahti al-arsh. Ces versets étaient sous le arsh, sous le trône d'Allah Azza wa Jal. Donc déjà, ça nous donne une autre approche. On se rend compte que c'est vraiment exceptionnel cette sourate. On continue. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit également, un hadith qui est rapporté par un musulman, La taj'alu buyutakum qubura, ne faites pas vos maisons des tombes. Il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens, en parlant de ceux qui ne prient pas jamais à la maison, qui ne font pas de namaz nafil, de sunnat, et donc la maison devient comme une tombe, on ne prie pas. Mais là, c'est un autre hadith qui dit « La taj'alu buyutakum quburan, fa innal bayt alladhi yuqra'u fihi sourate al-Baqarah, la yadkhuluhu shaytan » par Imam Tirmidhi également. La maison dans laquelle la sourate al-Baqarah est lue, le diable n'y a pas accès. Et donc, par mafhoum ou khalafa, par compréhension inversée, on comprend que quand on ne lit pas la sourate Baqarah dans une maison, Shaitan a accès à la maison. Et on comprend également par rapport à la première phrase que quand on ne lit pas le Coran du tout dans une maison, cette maison devient comme une tombe. C'est-à-dire, c'est une maison qui est vide. C'est une maison où il n'y a aucune rahma qui descend. Il n'y a aucune baraka qui va s'installer. Qu'est-ce que nous cherchons pour nos demeures? Et quand on dit maison, c'est les maisons et les gens de la maison qui vivent dedans aussi. Est-ce que, en tant que père de famille, est-ce qu'on ne recherche pas le confort pour la maison? On cherche qu'il y ait l'eau courante, l'électricité, ben ça n'a pas besoin de préciser, mais qu'il y ait un minimum de confort pour que ma femme, mes enfants se sentent bien. D'accord? On veut apporter du bonheur de cette maison. Mais le bonheur, ce n'est pas uniquement le bonheur matériel. On doit rechercher la baraka, la bénédiction qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et cette bénédiction qui vient d'Allah, c'est cette bénédiction qui va apporter l'apaisement dans les cœurs. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui que voilà, il y a problème dans les familles, les générations, les parents, les enfants, ils parlent plus. Et le madame, le mari, ils parlent plus. Il y a des litiges en permanence. Il y a de plus en plus de cas de divorce. Après, il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Mais les savants disent qu'une des raisons, c'est quand il n'y a plus de baraka dans la maison. Et comment on amène la bénédiction dans la maison? Lecture du Coran régulière de la maison. Ta'alim. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement religieux, pas forcément dans un livret particulier, non. Quand on dit ta'alim, il ne faut pas se dire que le ta'alim c'est un livre, non, c'est kalam du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il y ait une transmission de ilm shar'i, qu'on parle d'Allah et qu'on parle de son prophète dans la maison, en se basant sur les textes, sur les versets. Ou sur, si je lis deux pages de Ibn Kathir à la maison, c'est un ta'lim. Ta'lim, c'est l'ouratan, l'enseignement. Ça doit être omniprésent dans la maison. Si une journée se passe et il n'y a pas eu diffusion du ilm shar'i, ou qu'il n'y a pas eu de Qur'an qui est lu de cette maison, c'est dangereux parce que Shaitan trouvera accès à cette maison. Et ça veut dire que de cette journée, la bénédiction d'Allah, la baraka ne va pas pénétrer cette demeure, ce qui serait vraiment dommage. Alors qu'on peut la voir avec grande facilité. Donc, ça me dit que lorsque une personne lit soit baraka dans une maison, Shaitan n'y a pas accès. Autre hadith dans le cas du prophète alayhi salatu wassalam, hadith Anas bin Malik, dit Inna Shaitan yakhruju min al-bayt idha sami'a surat al-baqara tuqra'u fihi. Shaitan yakhruju, sort de la maison où la baqara est lue. Autre hadith de Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit que inna shaytana yafirru, c'est un autre verbe, shaytan yafirru, fuit cette maison, il y a sur la baqara, shaytan ne supporte pas la baqara. C'est vrai que quand il y a sur la baqara, il va dire que c'est des pieux, on va pas les, ça pas maille exode, ça c'est une famille pieuse. Non, shaytan, c'est pas uniquement que c'est un genre qu'il a du respect pour une maison et sur la baqara qui est lui, non, c'est qu'il ne supporte pas cette sourate. Et donc, quand la sourate Baqara est dans une maison, Shaitan yafirru, il s'enfuit de cette maison. Et quand Shaitan s'enfuit, ben, alhamdulillah, il y a beaucoup de mauvaises choses qui va quitter cette maison. Et il y a beaucoup de choses à propos desquelles on aura donc hifava, on aura donc protection. Et autre hadith, il y a pas mal de vertus, mais on va s'arrêter là, au moins on peut passer à l'alif lam mim. Le prophète alayhi salatu wassalam dit que, wa inna asfar al buyut il jawf as-sifru min kitabillah, en ce sens que la maison la plus vide, la maison la plus pauvre, pour nous, c'est quoi la maison la plus pauvre? On dit que c'est la maison où il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas internet, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de canapé, il n'y a pas un lit pour dormir. Ça, c'est une maison de pauvres. Ça, c'est des gens qui font pitié. Cette maison, elle est démunie, elle est vide. La maison la plus vide, la maison la plus démunie, c'est celle qui est celle où il n'y a jamais le kalamullah, le kitabullah qui est récité. Dans une maison où on ne lit pas le Coran, c'est la pire des maisons, c'est la demeure la plus vide. Donc ça nous donne déjà une compréhension de l'importance de la lecture du Coran dans la maison et les vertus de Sourate Al-Baqara. Comment est-ce que on va apporter, inshallah, une protection à l'ensemble de la famille par le biais de cette lecture? Par exemple, dit le hadith que man qara'a, on va dire en français pour être plus, celui qui lit 10 versets de Sourate Al-Baqara la nuit, Shaitan n'entre pas dans cette maison toute la nuit. Et celui qui lit celui qui lit 10 versets sur le Baqara, Shaitan n'entre pas dans cette maison la nuit. 4 au début de la Sourate Al-Baqara, Ayatul Kursi, c'est-à-dire plusieurs passages, et les 2 versets après Ayatul Kursi, c'est-à-dire La Ikraha fid Din et Allahu Aliyul Ladina Amanu, wa thalatha ayat min akhiriha, et les 3 derniers versets de la Sourate Al-Baqara, la dernière page où il y a les Rabbana la tu'akhidina, de celui qui lit le soir avant de dormir, Shaitan n'entre pas dans cette maison le soir. Donc c'est un devoir pour chaque parent, père, mère ou n'importe quel responsable, n'importe quel tuteur dans une maison, on ne peut pas se permettre de dormir sans lire des passages sur le Baqara, parce que de cette façon, on garantit la protection pour notre famille. Et Shaitan ne va pas les perturber durant cette nuit. Dans une autre version, dans un texte de Sahl ibn Sa'd, ça me dit que man qara'aha fi baytihi layla, celui qui lit la Baqara la nuit, Shaitan n'entre pas pendant 3 Trois nuits, Shaitan n'entre pas dans une maison où la sourate Baqara est lue. Et celui qui lit le matin, pareil, Shaitan n'entre pas trois jours. C'est pour ça que certains savants, ils donnent comme conseil, découper la sourate Baqara en trois. Et lisez un tiers chaque jour. C'est vrai qu'il y a en entier, peut-être ça peut être un peu difficile, ça fait plus de deux, c'est pareil et demi, mais si on divise en trois, ça devient accessible. De cette façon, ben, si à chaque fois on fait un baqara en entier en trois jours, ben, Shaitan n'entrera jamais, Inch'Allah, dans notre maison. Et l'ulama donne comme précision, quand on dit de lire, c'est que l'homme qui lit, je lis moi-même, c'est pas je mets un CD, c'est trop facile. Mais ça travaille, ils mettent CD MP3 sur le baqara, et puis le soir pareil, ils mettent un salon sur le baqara. C'est pas ça, c'est tila watan, c'est que l'homme lit. Et la lecture, c'est autre chose. Quand quelqu'un lit, il y a toute sa piété, sa taqwa qui va se manifester à travers sa lecture, sa concentration, sa dévotion, sa relation avec Allah, sa compréhension des textes, ce qui donnera un poids à la lecture. Il y a des gens, ils sont capables de lire sur vous Sourate Al-Fatiha, ils vous guérissent de toutes vos maladies. Alors que vous pouvez écouter Sourate Al-Fatiha avec un grand qali ou autre chose, et ben vous êtes toujours tordu ou mal en point de tous les côtés, vos problèmes ne sont pas réglés. Sourate Al-Fatiha, c'est shifa ça. Mais, et comme tous les versets, en fonction de la taqwa de la personne, les versets auront un effet. Et bon, ça c'est tout un autre chapitre. Mais celui qui a la... Vous voyez, les sahaba qui étaient en voyage et tout, ils avaient lu Al-Fatiha sur quelqu'un qui était empoisonné et tout, ils trouvaient santé parce que la lecture d'un sahaba, c'est une lecture de haut niveau. C'est une lecture de haut niveau. Donc la lecture, je reviens à ce que je disais, la lecture de Baqara dans la maison régulièrement, mais une lecture réelle de la part de chaque personne. Une fois les sahaba étaient en sortie, hein, avec, ils étaient un groupe, ils étaient à l'extérieur, il fallait trouver un amir, et ils se sont dit, ben, on va voir qui est-ce, sur quel critère on va désigner le amir. De nos jours, sur quel critère on désigne un chef ici? Grand famille. Telles affaires, il faut, on a un nom, il faut que vraiment, lui c'est son grand-père, son dada, on a fait telle chose et tout, donc c'est quelqu'un qui porte une étiquette sur son épaule. Sahaba, il ne cherche pas tout ça. Il dit, qui c'est qui connaît le plus de Coran ici là? Qui connaît plus de Coran de son cœur? Et ils ont vu un peu tout le monde, et il y avait le plus jeune parmi eux. Et les savants disent, voyez, très souvent ce sont les jeunes qui se mettent en avant dans les premiers jours de l'islam. C'est toujours les jeunes qui ont été les porte-drapeaux de l'étendard du dîn, de sa spiritualité, de la progression, de la propagation et de ses valeurs. Donc un des plus jeunes a dit, moi je connais tel passage et je connais également Sourate Al-Baqara. Ils ont dit, Ama'aka Sourate Al-Baqara, tu connais tout le Sourate Al-Baqara? La personne dit, Na'am, oui. Elle dit, Idhab, fa'anta amir, dit, Kharas, c'est toi notre chef. Et après, il y a un sahaba qui dit que moi, j'ai jamais voulu vraiment le mémoriser de crainte que j'arrive pas à faire tahajjud avec Sourate Al-Baqara. Et là, les savants disent, attention, c'est là qu'il y a un signal d'alarme. Vous voyez comment les sahaba, quelle était leur relation? On va pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, mais quelle était leur relation avec le Coran? Pour eux, quand je mémorise un passage du Coran, je le lis, je comprends, je m'en pratique, et je le lis dans tahajjud. C'était tout à fait normal. Ce que je connais, ben je fais tahajjud et je lis ce que je connais du Coran. C'était ça. Et ça, un exemple, ça me dit que celui qui connaît le Coran et qui le lit, c'est comme un sac de musc et ce parfum va se répandre dans la maison, ça va amener baraka dans toute la maison. Le Zama dit, moi j'avais une petite appréhension parce que je craignais que si j'emmagasine tout ça, tous ces versets, et après je ne fais pas tahajjud, je ne lis pas de tahajjud, je vais être coupable, je vais me sentir mal. Et nous, on mémorise, on cumule, mais on n'a jamais pensé que ça fait partie des conditions de notre relation avec le Coran. Bref, donc, on comprend que cette sourate, elle est riche en valeur, en fadra'il, et il est donc un devoir du croyant de s'y attarder et de le lire régulièrement. Alors, je ne sais pas combien de temps on peut disposer encore, on est à une heure et 8 minutes, peut-être jusqu'à 1h15, hein, 1h15, juste « Alif Lam Mim Dhalikal Kitab La Rayba Fih », peut-être juste pour qu'on voit un petit peu la beauté de ces versets. « A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, Alif Lam Mim ». On appelle ça des huruf, barakallah fik, des huruf muqatta'a. Ce sont des lettres dissociées. Alif Lam Mim, c'est pas un adjectif, c'est pas un verbe, c'est pas une préposition. Ce sont des lettres qui ont été collées, associées, et il est impossible de décrypter le contenu de ces lettres. C'est-à-dire, dès le départ, tu commences Alif Lam Mim, Allah Rabbul Izzah te fait comprendre que ce Coran-là, c'est Ijaz. C'est le miracle d'Allah que Alif Lam Mim, ça passe bien. Ça, quand tu entends Alif Lam Mim, quand tu entends pas Sin Mim, quand tu entends même Taha, quand tu entends Kaf Ha Ya Ain Sad, quand tu entends même avec une lettre, il y a quoi avec une lettre? Sad, Qaf, Noun. On sent qu'il y a quelque chose. Ça, c'est Kalamullah, ça. Mais si moi, cette fois-là, j'invente un verset, je ne démarre pas. Bad, dit-il un bug, là. Il passe pas, il écorche l'oreille. Ou je commence par Zéréba. Bien, sorte là, c'est quoi cette cacophonie? Ça marche pas. Je le fais sur un ton de plaisanterie. Mais les Mufassirin disent que Hatta tarkib al-huruf min al-ijaz al-ilmi. L'association des lettres, c'est déjà la manifestation de la puissance d'Allah Azza wa Jal, que l'association de ces trois lettres, l'homme ne peut pas imiter. Vous savez qu'il y a pas mal de versets où Allah Azza wa Jal met au défi l'être humain d'apporter l'équivalent d'un surah ou de 10 versets. Les gens disent que même ces huruf muqatta'a, c'est déjà impossible pour un mu'min, pour un homme fasih, un homme qui maîtrise la langue arabe. Personne ne peut combiner des lettres qui vont apporter une telle lumière, une lumière semblable aux assemblements de lettres que notre Rabb a fait dans sa parole, dans le kalam Allah Azza wa Jal. Donc, voilà. Après, il y a certains mufassirin qui essaient de commenter Alif Lam Mim, mais il n'y a pas d'avis précis que oui, ça veut dire telle chose. Il y a certains mufassirin qui disent que chaque lettre, c'est un ramz, on va dire, c'est la première lettre d'un des sifat, d'une des qualités d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, Alif, c'est Allah. Lam, c'est Latif, une des qualités d'Allah. Mim, c'est Majid, par exemple. Mais c'est Ijtihad. Hein, ils essaient de donner un sens où certains disent que Alif Lam Ra, c'est Anallahu Ara. D'accord? Mais on ne saura jamais, on n'a pas une réponse fixe. Et ça entretient un peu ce mystère et qui nous fait comprendre que le Coran, on ne pourra pas le comprendre complètement. Et même une personne qui a voué sa vie au tafsir du Coran, je vous assure qu'il continue à apprendre jour après jour. Jour après jour, on continuera à apprendre le Coran parce que son contenu, on ne peut pas faire ihata, on ne peut pas l'englober complètement. Et ça fait partie. Il y avait d'autres points développés sur Alif Lam Mim, mais on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour essayer de parcourir quand même quelques versets. Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin. On va dire la traduction, c'est plus ou moins connu, mais pour ne pas faire de contresens de le tarjama, on regarde quand même. Dhalika al-kitabu la rayba fihi, ce livre, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Dans les Kitab, c'est-à-dire le Coran qui a été révélé sur le prophète alayhi salatu wa salam, la rayba fi, et al-rayb, c'est al-shak, le doute. Il n'y a pas de doute que ce livre-là, il vient d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de doute que ces paroles-là, ce sont les paroles d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de doute que le contenu miraculeux du Coran, cela émane directement du Seigneur des mondes. Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab, la rayba fihi mir Rabbil Alamin. Dans cette autre sourate, on dit que ce livre qui est révélé, dans lequel il n'y a aucun doute, ça vient du Seigneur des mondes. Donc déjà, les mufassirin, rahimahumullah, disent que quand on lit la rayba fihi, ça doit évoquer en nous un profond respect et beaucoup de considération pour les paroles que nous allons lire, parce que déjà quand tu commences avec la rayba fihi, il n'y a pas de doute que ça vient d'Allah, il n'y a pas de doute sur le moindre mot, le moindre terme de ce contenu, sur la véracité de tout ce qui est cité de le Coran depuis Alif Lam Mim jusqu'à Wannas, que tout ça, ça vient d'Allah et que tout ça c'est haq et tout ça c'est immuable, ça ne changera pas, c'est la vérité jusqu'au Qiyama. Donc déjà avec la rayba fihi, on fait le qadr, on comprend la valeur du livre que nous nous apprêtons à démarrer la lecture, qu'il n'y a pas le moindre doute, et donc il y a du respect qui s'installe en moi que je suis en train de lire le kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jal. Hada. Et les mufassirin disent également que une des grandes preuves que ça vient d'Allah Azza wa Jal, sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait une quelconque intervention de le kalamullah, veut dire que c'est Allah Rabbul Izza qui le révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi sallam, mais le prophète lui n'apporte rien de le Coran. C'est pas les paroles, c'est pas les idées, rien du prophète sallam, c'est directement d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces preuves, et on n'a pas besoin de preuves, mais quelques versets qui nous donnent une indication, les savants disent qu'il y a des fois où le prophète alayhi salatu wa sallam, vous savez, dans l'histoire, si je peux parler sur la Kahaf, où les gens de Madina, certaines personnes avaient dit au prophète, enfin, dit au Muhammad, ils n'avaient pas dit au prophète d'Allah, ils dit au Muhammad, on te pose quelques questions, on veut des réponses. Le prophète dit, ok, je vais vous apporter des informations dans quelques temps. Et la révélation est venue plus tard. Les savants disent, c'est une preuve de plus, et on n'a pas besoin de preuve, mais ça nous fait réaliser que réellement, ça c'est parole d'Allah, c'est pas le prophète qui décide. Autrement, parce que le prophète était embarrassé. Il a promis qu'il allait leur donner une réponse, mais la réponse, le wahi est venu plus tard. Si c'était de lui, na'oudhu billah, et on n'a aucune pensée de cette sorte, c'est de lui, il aurait dit tout de suite. Et preuve également que le prophète sallam était ummi, le prophète était illettré, il ne savait ni lire, ni écrire. Et ça c'est, à notre époque, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est illettré, on va dire que ça c'est naqs. Ça c'est un défaut, c'est dommage, la personne ne sait pas écrire, ça diminue un peu le shan, l'importance de la personne. Mais à cette époque, déjà c'était une généralité, la plupart des Arabes ne savaient pas lire et écrire, très peu étaient mutaallimin, avaient appris. Mais ça c'est une protection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il n'ait jamais pu écrire un mot ou lire un mot, ça prouve bien que lorsque maintenant il va, subhanallah, débiter, il va lire des versets qui interpellent kul musmi', kul, chaque personne qui écoute est interpellée, même les koufars. Ils étaient encore plus mal à l'aise que les mu'minines. Quand ils entendaient les versets, ils écoutaient et ils savaient qu'ils étaient en train de passer à côté de quelque chose d'énorme. Parce que les Quraysh, et là on ne va pas refaire la sirat en même temps, les Quraysh par excellence étaient les Ahlul Lugha. C'était eux qui connaissaient la langue arabe. Et d'ailleurs le miracle du Coran, c'est la qualité des versets, entre autres, qui fait qu'il était inimitable, que ces personnes qui avaient une maîtrise parfaite de la langue arabe, et personne jusqu'à la fin du monde aura une telle maîtrise de la langue arabe que les Quraysh et les Prophètes, eux-mêmes, ils comprenaient que c'est ce que le Mohammed est en train de dire, c'est inhumain, il est impossible. Et c'était, comme on l'a dit, il faisait des concours de poésie, et celui qui avait le plus beau poème, on brodait en fil d'or son cher, son poème sur la toile de la Kaaba, pour vous montrer comment il donnait de l'importance à al-fasaha, à l'éloquence en arabe. Donc quand ils entendaient ça, connaissez l'histoire où j'ai plus les noms en tête, hein, trois mouchriquins, ils ont été voir le prophète pour le persuader d'arrêter le travail de dîn. Et le prophète a lu, si je ne me trompe pas, Hamim, un des Hamim, et la personne était subjuguée. Il a écouté, il est ressorti un peu ébahi, un peu hagard comme ça, et les autres, ils attendaient de dire, alors c'est bon, tu l'as convaincu, tu as dit ce qu'il fallait dire. Il a dit, je ne sais pas, mais la seule chose que je sais, c'est que Mohammed a lu des paroles qui, wallahi, ne peuvent pas provenir d'un être humain. Et la personne était sonnée parce qu'il a entendu des versets, et c'était les gens qui comprenaient le mieux l'arabe, mieux que nous à notre époque. Et là, ils se sont rendus compte que ça, c'est une parole qui ne vient pas, qui ne peut pas être produite par un cerveau humain. Tout ça, ça renforce notre admiration pour le Coran. Une fois, petite anecdote, c'est pas le moment de raconter des anecdotes, mais les sahaba étaient en train de faire un travaux en commun. Est-ce que c'était la construction de la Masjid Nabawi ou autre chose? Et chacun ils essayaient de dire des paroles en vers, donc des poèmes. Et le prophète a essayé, mais c'était vraiment pas ça. Et les sahaba dit, wallahi, Allah dit vrai, tu n'es pas sha'ir. Tu n'es pas, et les sahaba, l'arabe moyen, ils savaient faire un poème. C'était dans leur culture, ça. Et quand ils ont vu le prophète essayer aussi, et que ça ne collait pas du tout, ni en termes de, comment on appelle ça, de concordance, de mizan, de poids, ni de rime et tout, ils ont dit que, wallahi, Allah dit vrai, tu n'es pas sha'ir. Ça, c'est pas pour toi, ça, au prophète d'Allah. Dire que le prophète, il ne pouvait pas ni écrire, ni lire, ni faire, ni dire une parole en shi'r. Les hadiths qu'on appelle Jawami al-Kalim, ça n'a aucun rapport avec shi'r arabi. Ça n'a aucun rapport avec les poèmes arabes. C'est de l'arabe très éloquent, mais il n'y a pas tout ce travail qu'il y a dans la poésie. C'est des textes clairs, compris par tout le monde, et qui percutent le cœur du mu'min. Les textes prophétiques, pour celui qui a istidad, celui qui a le iman de le cœur, tout comme la parole d'Allah, quand vous l'écoutez, ça percute votre cœur et l'effet rend directement dans le cœur. N'importe quelle parole, et ça faisait partie du miracle qu'Allah lui avait accordé, que à travers les paroles pénétraient les cœurs, mais ça n'avait aucun rapport avec le shi'r, avec la poésie. Donc, excusez-moi, avec la raibafi, on réalise que c'est vraiment kalamullahi azza wa jal. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, c'est une guidée. Et quand on voit le terme guidée, on n'a pas le temps d'expliquer ce que Ibn Kathir a dit à propos de Huda, on comprend, donc on réalise que ce n'est pas juste pour lire. À partir du moment où on dit que c'est un moyen de hidayah, de guider, c'est-à-dire qui dit hidayah dit émanation d'un message et récepteur qui prend le message et qui comprend tel chemin prendre. Donc il y a un message qui sort du Coran qui doit toucher les cœurs et qui doit nous donner une orientation à notre vie. Hudal, on va un peu vite, ça ne se fait pas, mais hudal lil muttaqin, un message, une guidée, c'est un guide pour les pieux, les muttaqin. Et là, ça nous permet de faire un lien avec beaucoup de versets du Coran qui rappellent que le Coran touche les cœurs des pieux. On pourrait prendre beaucoup de versets. Je ne sais pas, il n'a pas de kératel l'imen, yachcha. C'est un rappel pour celui qui a la crainte, c'est-à-dire la crainte d'Allah, Allah a de son cœur. Et pas mal de versets, ya yuhannas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur, que ça c'est un rappel, c'est également le Coran va apporter la paix et la santé pour ce qu'il y a comme maladie spirituelle dans le cœur, à condition que wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, guidé et clémence pour ceux qui ont réellement pour les mu'minin. C'est-à-dire que celui qui a iman et celui qui a l'amour pour Allah, ce sont ces personnes qui pourront réellement profiter du Coran. Parce que sinon, on peut se poser la question. Ces personnes qui écoutaient le Coran, ils voyaient que c'était incroyable. Mais pourquoi ils ne disaient pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Iman n'entre pas dans leur cœur, rempli de nifaq, d'hypocrisie, d'orgueil, de fierté, d'attachement à des intérêts autres que la guidée et ainsi de suite. Donc, ils ne voulaient pas. Ceux qui ont le ikhlas dans le cœur, qui ont l'iman et qui ont l'envie de se rapprocher d'Allah, qui ont tous ces sentiments positifs et qui ont la crainte d'Allah et cette taqwa qui se manifeste à travers les efforts qu'on va faire, eux, ils vont réellement profiter du Coran. Hada. Houdal al-Muttaqin, en commentaire, on précise également, quand on voit le mot Muttaqin, les gens pieux, ça nous fait comprendre que tous les musulmans ne sont pas pareils. On a le musulman basique et puis on a le muttaqin. Et si le Coran précise que Houdal al-Muttaqin, c'est-à-dire qu'on cite la meilleure des catégories, je comprends bien qu'il y a une frange parmi les musulmans qui ont un titre et qui sont agréés par Allah parce qu'ils sont muttaqin. Et la question que je me pose, est-ce que je vais laisser ces gens aller et rentrer dans ce groupe de muttaqin et moi je reste derrière? Est-ce que quand je comprends que tous les gens ne sont pas muttaqin, tous ceux qui ont la ilaha illallah dans leur cœur ne sont pas muttaqin, je dois comprendre qu'il y a un effort à faire pour être parmi ces gens-là. Donc, développer les qualités pour être parmi les muttaqin. Vous acceptez le jour de Qiyam, avant regarde les gens entrer dans le Jannat al-Firdaus, Birel Hissam, et vous restez là? Vous acceptez de voir plein de gens qui vont sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, qui sont appelés que leur livret de compte leur est remis dans la main droite et qu'ils passent le sirat à la vitesse de l'éclair et qu'avant ça, le mizan, la balance est magnifique et quand ils s'entretiennent avec Allah Azza wa Jal, c'est parfait et ils passent le sirat à la vitesse de l'éclair, les anges les accueillent et les amènent vers le demain de l'Jannah. Tu vois, Ismaïl, Ishaq, Abdullah, Yaqub, ton voisin, la personne que tu as rencontrée dans le Hajj Umrah, ils sont en train d'entrer et entrer entre le Jannah. Et toi, tu restes là. Et on t'appelle pas, et que tu fais pas partie parce que c'est les meilleurs qui vont aller avant. Mais au fur et à mesure, on voit les meilleurs qui passent. Tu te dis à un moment donné que ça veut peut-être dire que moi je suis pas parmi l'élite de la Ummah. Et est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter de s'auto-exclure de l'élite des Muttaqin? Je pense qu'il faut tirer un signal d'alarme là. S'il y a des gens qui feront partie des muttaqin, qui font partie des muttaqin de ce dunya et qui auront le résultat de la taqwa de l'akhira, il faut absolument que je fasse partie de ces gens-là. Je dois rejoindre ce qafila, je dois rejoindre ce groupe de personnes qui ont développé la taqwa afin que le jour de Qiyama, quand on les appelle, je suis avec eux et moi aussi je peux entrer dans le Jannah, moi aussi je peux être sous l'ombre du Allah Azza wa Jal, je reçois mon livret de compte à la main gauche. Donc le fait de savoir qu'il y a des muttaqin, ça crée un talab, une demande en nous et j'ai besoin donc de faire un effort pour être parmi cette catégorie de personnes et la taqwa comme on l'explique tout à l'heure, comment on le travaille, une relation qu'on construit avec Allah Azza wa Jal, connaître Allah Rabbul Izzah et il n'y a pas meilleure façon de connaître Allah Azza wa Jal que par Kalamullah, par la parole d'Allah et également en étudiant les asma wa sifat, les noms, les attributs d'Allah Azza wa Jal qu'on retrouve dans le Coran mais qu'on peut également étudier de façon autonome avec un savant. Plus on va connaître Allah, plus il y aura l'amour d'Allah dans notre cœur. Celui qui connaît, on expliquait ça hier aux jeunes, celui qui connaît qu'Allah est Samir, Basir, Ala Kulli Shayin Qadir, Ala Kulli Shayin Wakil, Latif, Khabir, Wadud. On connaît les sifats d'Allah. Je vous assure, quand quelqu'un a intégré les qualités d'Allah et qu'il a une idée de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, de sa puissance, de sa beauté, de ses qualités, son sijda, ça va être un autre niveau. Quand il pose son front sur le sol devant Allah Azza wa Jal, ce n'est pas comme celui qui connaît juste que Allah c'est Dieu. C'est bien au-delà de ça. Donc, plus je vais essayer de travailler mes croyances pour connaître Allah Azza wa Jal, je vais me donner toutes les chances de mieux connaître mon Rabb et d'augmenter la qualité des actions. Et c'est de cette façon qu'on va construire une relation intérieure sincère avec Allah Azza wa Jal. Houdal al-Muttaqin. Et qui sont les muttaqin? Et là, Ibn Kathir dit, humul ladina na'at humullahu bi qawlihi. La définition de muttaqin, ça vient juste après, c'est na'at, c'est une phrase qui est explicative. les pieux, c'est-à-dire alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. C'est eux les meilleurs. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ils ont la guidée de la part d'Allah azza wa jalla. C'est-à-dire que c'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible. Wallahi, on va reporter ça pour une autre fois, mais ça, c'est des points essentiels à développer. Iman bil ghaib. Et on va se rendre compte que nous, on ne croit quasiment pas au ghaib. On se rend compte que dans notre yaqin, dans notre vie de tous les jours, dans notre façon de travailler, dans notre façon de fonctionner, on a une telle confiance sur les asbab, sur les intermédiaires, on fond tellement d'espoir sur le dunya, c'est qu'en réalité, là, il n'y a plus de place pour notre Seigneur dans notre cœur. Même si on a l'impression d'avancer, c'est ça qu'on disait, qu'une connexion avec Allah qui est vide, un cœur qui est vide, qui n'existe, une connexion qui n'existe malheureusement pas, parce qu'on n'a pas su faire le lien avec notre Seigneur. Et ça, c'est une qualité essentielle du croyant, alladhina yu'minuna bil ghaib, donc, qui croit à l'invisible et accomplisse comme il faut la salah. Ça aussi, c'est un point à développer, la salah, il n'y a pas à redire dessus. Et les savants disent, voyez, subhanallah, on est en train de bâcler des passages du Coran, que le iman, c'est i'tiqad bil qalb, qawlun bil lisan, le iman, c'est la croyance de le cœur. C'est ce que tu vas dire avec ta bouche, la ilaha illallah. Et c'est amal bil jawarih, c'est les actions que tu vas accomplir. Tout ça, ça fait partie de la foi. Tout ça, ça fait partie du iman. Et voyez, lorsqu'on donne la définition de mutaqin, c'est alladhina yu'minuna bil ghaib, qui croient en l'invisible. Mais il y a également amal. Wa yuqimuna as-salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tout ça, ça fait partie de leur qualité, qui accomplissent les prières et qui donnent en eux-mêmes, qui donnent de ce qu'Allah leur a donné. Tout ça, la combinaison entre le côté interne, les croyances et les a'mal, ça fait de vous un mu'min haqqa et quelqu'un qui est muttaqi. Je pense qu'Inch'Allah on est un peu fatigué, ça se voit. On aura l'occasion, Inch'Allah, de développer ça une autre fois. Mais qu'Allah Rabbul Izza nous permette déjà de comprendre, de réaliser qu'il y a du travail à faire. Et qu'on réalise qu'on n'est pas au top de la foi. On n'est pas les meilleurs croyants de l'histoire de l'humanité. On a besoin de travailler. On n'est pas les pires non plus, Inch'Allah. Mais il y a un effort à faire. Et l'effort à faire, c'est pas forcément faire beaucoup de namaz nafil, faire beaucoup de dhikrullah. C'est des actions qu'on fait déjà, alhamdulillah, qu'on continue à faire, qu'Allah nous accepte, pour les faire encore. Mais il y a certains points qu'on n'a pas eu trop l'occasion travailler, et entre autres, le point sur lequel on a mis le doigt aujourd'hui, c'est la relation du quotidien avec le Coran, qu'on fasse tous le nid en intention ferme que à partir de ce jour, Inch'Allah, je vais développer une autre relation avec le Coran, je vais prendre ce Coran, mais je vais le regarder d'une autre façon, je vais prendre le Coran avec sa traduction, avec le tafsir, et je vais essayer d'apprendre, de connaître qu'est-ce qu'Allah, Rabbul Izzah, me dit. Comment est-ce qu'on peut lire « Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil'uqud »« Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidayni »« Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bisabri wa salat » « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisas »« Kutiba alaykum al-siyam » Tous ces « Ya ayyuhalladhina amanu » et qu'on n'a jamais compris qu'est-ce qu'Allah veut nous dire. Vous voyez, on voit pas qu'il y a un truc qui manque là. À chaque fois qu'Allah dit « Oh vous qui avez la foi », ça concerne qui? Tous ceux qui ont dit « La ilaha illallah » sont mukhatab, sont interpellés par le terme « Ya ayyuhalladhina amanu ». Et moi, je passe à côté depuis je ne sais combien de temps. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais ça veut dire qu'on a un effort à faire. Il y a encore beaucoup à progresser. Et si on peut ressortir de ce majlis avec cette conviction qu'on a besoin de travailler notre relation avec le Coran, de cette façon, on va développer la piété et l'amour d'Allah et la crainte d'Allah dans notre cœur. Inch'Allah, on va avancer et de cette façon, on va trouver une lumière dans le Coran et on va également trouver une lumière de l'accomplissement de chaque action et la foi va s'installer réellement dans notre cœur et on aura istiqama, fermeté dans les bonnes actions, on aura sifat, les qualités des bonnes actions, on va développer les qualités de l'ibad al-Rahman, des muttaqin, et le jour de Qiyamah, on a espoir d'être parmi eux, parmi les ashab al-Yamin, parmi les muqarrabin, les gens qui seront proches d'Allah Azza wa Jalla. Qu'Allah nous accepte, nous permette de comprendre ces paroles et que la réalité pénètre dans notre cœur, et que même ce qui n'a pas pu être dit, qu'Allah Rabbul Izzah, par sa clémence, sa générosité, nous permet, Inch'Allah, de bénéficier des récompenses et que ces lumières rentrent dans notre cœur, et que chaque personne qui quitte cette assemblée, il fait le lien à l'azm, l'intention ferme, Inch'Allah, à partir de ce jour, de construire une relation saine, profonde et sincère avec le Coran. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa afur da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Zakumullah.